Chapitre 53. Les tentatives infructueuses des prêtres pour arriver à mon lit de maladie. Mon défi à l'archevêque non accepté. Après un mois de dur labeur missionnaire dans la Nouvelle-Angleterre, je fus obligé de retourner à Montréal, épuisé et malade. Je dus garder la chambre pendant près de 2 mois. Durant cette longue maladie, le clergé catholique romain fit des efforts spéciaux pour arriver jusqu'à mon chevet. On cherchait évidemment quelques prétextes pour annoncer au public que je m'étais réconcilié avec l'Église romaine. Mais ce beau plan échoua. Me défiant de ce qui pourrait arriver, j'avais donné les ordres les plus stricts, comme je fais généralement en pareil cas, de ne laisser aucun prêtre ni aucun agent de Rome monter dans ma chambre. Un jour cependant, en octobre, une dame nommée Mademoiselle de la Rousselière, d'apparence fort élégante, se présenta à la porte de ma maison et me fit parvenir un mot de billet poli pour me demander une entrevue. Elle semblait si sincère et si tenace qu'on lui accorda sa demande. Introduite dans la chambre où se trouvait ma femme, l'une de mes filles et un ami, elle demanda à me voir seule. Je répondis que je ne voulais rien entendre qu'elle ne pût me dire en présence de ma famille et de cet ami. On sonna de nouveau à la porte. Et, en ouvrant, la servante se trouva vis-à-vis d'un prêtre qui paraissait très pressé et qui lui dit à brûle-pourpoint : « Est-ce qu'une dame ne vient point d'entrer ici ? Veuillez me dire où elle est. Il faut que je la voie immédiatement. » La fidèle servante dit qu'elle ne pouvait pas faire cela et sans plus tarder appela mon gendre, M. le pasteur Morin, qui, en descendant, aperçut un gros prêtre à l'aspect jovial. « Je suis l'abbé Mar de l'église Notre-Dame, » dit-il. « J'ai entendu dire que M. Chiniquy était bien malade et j'ai pensé que je m'arrêterais pour le voir en passant car nous n'oublions pas qu'il est toujours prêtre et que, comme tel, il appartient à notre paroisse. » M. Morin mit M. l'abbé Mar au courant des ordres stricts que j'avais donnés de ne laisser aucun prêtre entrer dans ma chambre, mais il ajouta qu'il serait le bienvenu s'il voulait bien revenir me visiter quand je serais complètement rétabli. Pendant ce temps, Mademoiselle de la Rousselière m'engageait à prier la Vierge Marie pour être inspirée à me réconcilier avec l'Église et d'accepter le ministère d'un prêtre. Je lui dis que le Christ me suffisait, qu'il était mon seul sauveur et mon seul médiateur, que je n'avais besoin de l'intervention d'aucun homme ni d'aucun prêtre et que j'éprouvais une pitié mêlée de dégoût pour ces pauvres esclaves du pape. En entendant cela, elle se précipita hors de la chambre, descendit promptement les escaliers et rencontrant l'abbé Mar en bas, elle lui cria tout excitée : « Oh, monsieur le curé, n'allez pas le voir. Il a dit qu'il avait votre soutane en horreur. » Le prêtre se mit à rire et sortit, en laissant les témoins de cette scène sous la ferme impression que toute l'affaire avait été machinée d'avance, mais que l'intrigue avait piteusement échoué. Peu de temps après ce stratagème clérical, je fus assiégé par une armée d'autres fanatiques papistes, principalement des femmes, dont le but avoué était de provoquer mon retour à l'église de Rome. Toutes ces machinations ayant échoué, les jésuites, qui se considèrent, et non sans raison, comme les plus habiles serviteurs du pape, songèrent à leur tour à s'occuper de ma conversion. Ils se mirent donc à l'œuvre, employant également une femme pour agent et prétendirent que par son entremise, j'avais demandé leur assistance spirituelle. Les deux lettres que j'insère ici le prouvent. La première me fut adressée le 4 novembre par le père Hamon, la voici. Collège Sainte-Marie, Montréal. Cher monsieur, Madame F.X. Trudel me dit que vous recevriez volontiers la visite d'un père jésuite et elle m'a montré une enveloppe signée par M. Gilles Morin fixant notre entrevue pour le premier dimanche de novembre à 2h30 de l'après-midi. Malheureusement, à cette heure, je dois présider l'Assemblée de l'Union catholique, mais si cela vous convient, je puis être chez vous à 4h30. Tout à vous. G.J. Hamon, S.J. Au reçu de cette lettre, M. Morin, s'apercevant que le père Hamon avait été apparemment induit en erreur, lui écrivit sur le champ la réponse suivante. 65 rue Hutchinson, Montréal, 5 novembre 1894. Au révérend G.J. Hamon, Collège Sainte-Marie. Monsieur, M. Chiniquy me prie d'accuser réception de votre lettre et de vous dire qu'il n'a jamais exprimé à Mme Trudel le désir de recevoir la visite d'un père jésuite pendant sa maladie. Au contraire, il dit à cette dame samedi dernier qu'il lui suffisait d'avoir la présence de Dieu, qu'il n'avait nullement besoin de la présence d'un jésuite pour mourir dans la pleine assurance de son salut. Quant à cette entrevue que j'ai fixée, dit-on, pour le premier dimanche de novembre, voici ce qu'il en est. Cette bonne Mme Trudel, qui a fait preuve d'un zèle ardent mais déplacé, commença dimanche dernier à vanter les grands avantages du célibat ecclésiastique. Je pris alors la liberté de faire allusion aux nombreux désordres provoqués dans tous les rangs de la hiérarchie par le célibat obligatoire. Je lui fis remarquer de plus que l'apôtre Pierre était marié, que le clergé catholique romain suivit son exemple pendant plusieurs siècles et qu'aujourd'hui encore, il y a des prêtres catholiques romains qui ont leurs femmes légitimes. Toutes ces assertions lui parurent comme autant d'erreurs et de propositions hérétiques que je ne pourrais soutenir, dit-elle, en présence d'un jésuite. « Aussi bien qu'en votre présence, lui répondis-je. Dans ce cas, ajouta-t-elle, voulez-vous me permettre d'amener ici un jésuite dimanche prochain pour discuter ces questions avec vous ? Je n'y ai aucune objection, si vous le désirez, répliquai-je. Elle me demanda alors d'écrire sur une enveloppe qu'elle tenait à la main le jour et l'heure de cette entrevue et de signer mon nom, car je crains, dit-elle, que la mémoire ne me fasse défaut. C'est ce que je fis. Mais vous voyez que M. Chinecki n'est nullement engagé en quoi que ce soit par cette conversation. Et je ne puis m'expliquer que Mme Trudel ait pu vous induire en erreur au point de vous dire que c'était M. Chinecki qui avait fixé l'entrevue avec vous. Cependant, si vous êtes désireux de savoir ce que M. Chinecki pense de l'Église de Rome, quelle paix et quelle joie il possède dans la communion de son Sauveur, vous n'avez qu'à me le dire et aussitôt qu'il sera suffisamment rétabli, je l'en avertirai. Naturellement, je suis prêt à défendre les propositions qui ont causé tant d'horreur à cette pauvre Mme Trudel. Et dans le cas où vous désireriez venir dans ce but, je vous prierai de choisir un autre jour, car dimanche prochain, je devrai m'absenter. Tout à vous, J.L. Morin. Pour être sûr que cette lettre arriverait à destination, M. Morin, accompagné d'un ami, la porta lui-même au Collège Sainte-Marie et la remit au portier de cette institution, qui lui dit que le père Hamon était chez lui et qu'il la lui remettrait personnellement. Nous pensions que nous n'entendrions plus parler de cette affaire, mais nous nous trompions. Fidèle à la promesse contenue dans sa lettre, le père Hamon se présenta le dimanche dans l'après-midi pour me voir, suivant ce qui était convenu, dit-il. Et quand M. Morin lui eut fait observer qu'il lui avait écrit lui-même pour lui expliquer toute l'affaire, il répondit qu'il n'avait point reçu la lettre et que le messager doit l'avoir égaré. « Mais j'ai porté moi-même la lettre au collège, dit M. Morin. » Après un tel coup, un homme ordinaire eut perdu contenance. Mais le père Hamon ne se troubla pas pour si peu. Au bout de quelques minutes de la conversation la plus amicale, il prit congé de M. Morin en s'excusant d'avoir été importun et pensant sans doute que l'honnêteté est la meilleure politique, même dans la conversion d'un hérétique. Lorsque Dieu, dans sa miséricorde, m'eut rendu la santé, je pensais qu'il était de mon devoir d'adresser à l'archevêque de Montréal la lettre suivante qui parut dans les journaux du temps. 65 rue Hutchinson, Montréal, 8 décembre 1894. À Monseigneur Fabre, évêque catholique romain de Montréal, Monseigneur. Pendant ma dernière maladie, vous m'avez assiégé de vos prêtres et de vos prêtresses, c'est pourquoi je prends la liberté de vous adresser la présente. Ma force est si bien revenue que je puis vous écrire sans lunettes et que la main ne me tremble pas plus que quand j'avais 30 ans, quoique je sois maintenant dans ma 86e année. Oui, Monseigneur, je suis guéri, parfaitement guéri, bien que je n'ai pris pas même une seule goutte d'eau de Notre-Dame de Lourdes et que je ne sois pas allé en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je suis guéri en dépit des malédictions et des excommunications des évêques et des prêtres catholiques romains. Et, ce qui vous surprendra encore plus, je suis guéri, parfaitement guéri, sans avoir porté aucune de vos médailles, pas même un scapulaire, sans même avoir fait brûler aucun cierge béni que j'aurais bien pu vous acheter pour la modique somme de 15 sous. Mais, pour que vous ne soyez pas tenté de supposer que c'est par le pouvoir du diable ou de quelque sortilège qu'un infâme apostat comme moi ait pu être guéri, je vais vous renseigner exactement à ce sujet. Que le Dieu miséricordieux vous fasse la grâce, Monseigneur, d'avoir recours aux mêmes remèdes ainsi que les milliers de nos chers compatriotes que vous conduisez dans les voies de l'erreur et de la perdition. À partir du jour où j'ai brisé les chaînes qui m'attachaient aux idoles catholiques, je me suis mis sous les soins du meilleur docteur que le monde ait jamais vu. Son nom est Jésus. Il est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il est venu du ciel il y a plus de 1800 ans pour nous sauver de toutes nos misères spirituelles et même pour nous guérir de nos maladies. À ceux qui voulaient être guéris par lui, il imposa cette condition qu'ils ne devaient pas invoquer d'autre nom que le sien. Son apôtre Pierre a prononcé textuellement ces paroles. « Nul autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Actes 4:12. Pendant les 18 siècles écoulés, tous les échos du ciel et de la terre ont répété ces douces paroles. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11:28. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14:13. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Jean 14, 23. Je suis le vrai cep. Vous en êtes les sarments. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Jean 15, 1, 2, 3, 4. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. À partir du jour où j'ai quitté le pape pour suivre le Christ, j'ai chaque jour senti davantage que la plus grande joie, la plus grande grâce en ce monde, c'est de l'aimer et de le servir. Je me suis attaché à lui de toutes les forces de mon cœur et de mon âme. Et il a été ma seule lumière, ma seule force, ma seule sagesse. Je l'ai toujours trouvé fidèle à ses promesses. Mais si j'ai senti qu'il était bon d'être uni à ce puissant et tendre ami au jour de la prospérité, j'ai trouvé qu'il était encore plus avantageux dans les jours d'épreuve par lesquels j'ai passé. Il a été mon bouclier quand j'étais attaqué par les nombreux assassins que vous et vos prêtres avez si souvent envoyés pour me tuer, soit à coups de pierre, à coups de bâton ou même à coups de revolver. Quand je recevais comme la grêle pendant l'orage, dans les rues de Montréal, de Québec, d'Halifax, de Charlottetown, d'Antigonish, d'Ottawa, etc., je me recommandais à ce puissant et tendre ami, je me réfugiais dans son cœur et je me sentais aussi en sûreté que le petit enfant dans les bras de sa mère. J'invoquais son nom tout-puissant et il me semblait sentir ses bras miséricordieux autour de moi pour me protéger. J'entendais sa douce voix me dire « Ne crains point, je suis avec toi ». Et quand j'échappais des mains de mes agresseurs meurtris, blessés, sanglants, je me sentais si heureux d'avoir souffert quelque chose pour l'amour de ce sauveur bien-aimé qui, sur la croix, avait versé son sang pour moi. Mais c'est surtout quand j'ai été attaqué par cette dernière maladie que j'ai senti le besoin d'avoir cet ami tendre et puissant auprès de moi comme mon médecin. Avec Pierre, j'ai crié « Seigneur, sauve-moi ! » Et vous pouvez venir vous assurer par vous-même, mon Seigneur, comment il est venu à mon secours et m'a guéri. Aussi, pouvez-vous vous imaginer mon étonnement et mon chagrin quand au moment même où je faisais ces expériences bénies, vos prêtres et vos prêtresses ont osé me dire que j'étais hors du chemin du salut et que je serais damné si je ne rentrais pas dans l'église romaine dont vous êtes l'un des évêques. Qu'avaient-ils donc, vos prêtres, à m'offrir pour remplacer ce divin ami et docteur et pour me faire oublier qu'il est ma seule espérance, la source de ma vie, mon seul sauveur, mon seul refuge? Que m'ont-ils donc offert pour m'empêcher de dire avec Paul « Je ne veux connaître que Jésus et Jésus crucifié » Ils n'avaient rien que quelques lambeaux d'étoffe appelés scapulaires et des annulettes de cuivre, de fer et d'argent trouvés probablement dans les ruines des temples de Vénus, de Bacchus, de Minerve et de Jupiter. Oui, qu'avaient-ils, vos prêtres, à me donner pour me faire oublier et abandonner ce sauveur béni, Jésus, dont la présence dans mon cœur me rendait souvent si heureux que non seulement elle me faisait oublier mes cruelles souffrances, mais qu'elle les changeait en sentiments d'une joie inexprimable. Ils avaient encore à m'offrir un petit dieu d'à peu près un pouce de diamètre, fait avec un pain à cacheter, cuit par leur domestique entre deux fers chauds. Ne soyez donc pas surpris si j'ai repoussé ces ambassadeurs de Rome avec autant d'aversion que de pitié. Maintenant, mon Seigneur, permettez-moi encore quelques remarques. Depuis plus de 30 ans que je me suis séparé de l'Église romaine, je n'ai jamais passé un seul jour, quand j'étais en bonne santé, sans vous prier, vous supplier et même vous défier, vous et vos prêtres, de venir me montrer ce que vous appelez mes erreurs. Des milliers de fois, je vous ai dit que je consentirais volontiers à me mettre au pied du pape et me soumettrais de nouveau à son autorité si vous aviez la bonté de me prouver publiquement, au grand jour, que l'apôtre Pierre est jamais allé à Rome, que le pape actuel est le successeur légitime et que Pierre lui-même, ainsi que tous vos papes, ont reçu de Jésus-Christ le pouvoir de gouverner son Église. Je vous ai prié bien des fois et vous prie encore aujourd'hui de me prouver dans une conférence publique que votre confession auriculaire est un sacrement institué par le Christ et qu'elle a toujours été pratiquée comme elle l'est aujourd'hui dans votre Église. Et je m'engage, moi, à vous montrer par le témoignage de vos meilleurs auteurs catholiques romains qu'elle est d'origine païenne et qu'elle n'est en usage dans votre Église que depuis l'époque ténébreuse du Moyen-Âge. Dans cette conférence publique, je vous demanderai encore de me montrer le texte de l'Évangile qui vous permet de laisser les pauvres brûler dans les flammes du purgatoire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quand vous en tirez si vite, le riche qui remplit vos mains de l'or que très souvent il a extorqué aux pauvres. J'aurai une autre faveur à vous demander dans cette conférence. Ce sera de me montrer un texte de l'Évangile qui vous permet d'envoyer en enfer comme coupable de péché mortel le pauvre qui, en carême, mange un morceau de lard gros comme le pouce pendant que vous lui permettez d'aller au ciel, comme en vrai chrétien, s'il mange ce morceau de lard fondu dans un mets quelconque. À cette même conférence, je vous demanderai aussi de me montrer le texte de l'Évangile qui vous autorise à pousser, sinon à forcer, tant d'hommes et de femmes, prêtres, moines et nonnes, à faire des vœux de célibat, quand Dieu lui-même, dans la Bible, est évidemment si opposé à ces sortes de vœux, comme vous pouvez le voir par les passages suivants. Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2,18. Pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et chaque femme son propre mari. 1 Corinthiens 7,2. Vous n'avez jamais été assez brave pour venir discuter ces sujets avec moi tant que j'ai été en bonne santé et capable de vous répondre. La seule réponse que vous m'avez faite, c'est d'envoyer des assassins avec des cannes, des pierres et des pistolets pour me tuer. Mais aussitôt que vous entendez dire que je suis si malade que je puis à peine remuer ma tête sur mon oreiller, vous devenez inopinément brave. Vous m'assiégez de vos prêtres sous le prétexte de me montrer mes erreurs et de me ramener à l'église de Rome. Mais ne craignez-vous pas que même les enfants qui vont à l'école ne voient que chez vous le courage brille par son absence? Ne sentiront-ils pas que vous n'avez aucune confiance dans la force de votre propre cause? Lorsque j'étais malade et incapable de discuter avec vos ambassadeurs, j'ai refusé de les voir. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis bien et capable de vous rencontrer et de vous répondre, et c'est pourquoi je vous adresse ce défi. Si vous êtes sincère dans vos efforts pour me ramener à l'église romaine, venez aujourd'hui me montrer mes erreurs. Je vous ouvrirai les portes de ma maison et serai très heureux de vous recevoir sous mon toit. Je vous recevrai, mon Seigneur, avec tout l'honneur et le respect dû à votre haute position et je vous prouverai la sincérité de mon estime personnelle. Nous discuterons comme deux parfaits gentlemen. Malgré vous, les semences de liberté, d'égalité et de fraternité que le Christ a apportées du ciel pour délivrer les nations opprimées des mains de leurs tyrans portent leurs fruits bénis au Canada. Pendant que vous foulez aux pieds ces semences bénies de liberté, l'heure vient rapidement où le peuple canadien français, le Saint-Évangile à la main, réglera ses comptes avec vous. Ce jour-là, vos forteresses les plus imprenables s'écrouleront au Canada comme elles se sont écroulées en Angleterre, en France, en Allemagne, au Mexique. Ce jour-là, les Canadiens français accepteront la parole de Dieu pour leur seule autorité et cette parole leur donnera la liberté. Je suis mon Seigneur avec respect. Charles Chiniki.